This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Les Rescapés, le podcast qui vous parle de ces gens qui ont vécu une déflagration dans leur vie, qui a signé la fin de leur vie d'avant et conditionné leur destin. Nos témoins sont des survivants. Ils auraient pu sombrer, mais la fracture qu'ils ont vécue a parfois donné du sens à leur vie ou révélé une partie d'eux-mêmes qui serait certainement restée endormie. Aussi difficile que fut l'épreuve, ils sont parvenus à voir la vie d'un œil neuf. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après ? Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort ? N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
Je suis Moustapha. Il y a un peu plus de 3 ans, tout allait bien dans ma vie. J'avais un superbe travail, une épouse qui m'aimait, une famille, des amis, une situation confortable, tout était parfait. Et depuis le 20 mai 2020, je suis devenu un rescapé. Je suis Moustapha, j'ai 56 ans. J'étais un directeur financier, papa de 3 enfants. J'ai toujours eu une vie qui a été dictée par la perfection. Une vie bien rangée, tout était fleuri. Je suis le benjamin d'une famille de 5 enfants. Mes parents viennent du Maroc. J'ai grandi dans une cité dans le 93. J'ai toujours été un enfant doux, gentil, très serviable, très obéissant, qui faisait tout comme on dit, qui travaillait bien à l'école, qui était aussi très serviable avec sa maman. J'ai une maman qui était insuffisante rénale, donc dialysée. Donc dès l'âge de 10 ans, elle est tombée malade et avec une très très grande fragilité. J'étais un enfant qui avait une peur atroce de la perte parce que cette maladie et toutes ces séances de dialyse l'amenuisaient un peu plus chaque jour. Et lorsqu'elle rentrait, elle n'était plus du tout disponible pour nous, pour ses enfants, puisque après une séance de 6 heures, elle allait s'allonger et dormait au lit et on la voyait pas avant le lendemain matin. Donc on se retrouvait et sans le pilier de la famille. C'est une maman tellement aimante qui nous a donné énormément d'amour, qui nous a tous aimés de façon inconditionnelle et tous aimés de façon à ce que chacun des 5 enfants pensait qu'il était le préféré. J'ai construit ma vie avec cet amour et ce besoin presque obsessionnel, enfin je le dis aujourd'hui, d'aller dans leur sens, de plaire, pas seulement mes parents, mais toutes les personnes qui étaient autour de nous, amis, famille, voisins, et plus tard à l'école, avec ce sentiment de vivre par rapport au regard des autres. J'ai grandi avec mon frère Rojdi, qui avait 15 mois de plus que moi. On est très complices, on joue ensemble, on partage les mêmes copains, on partage les mêmes activités. Et pourtant, on est deux êtres complètement différents. Moi, je suis l'enfant doux, sage, obéissant, très aidant, qui participe aux tâches ménagères, qui s'occupe de sa maman. Lui est plutôt l'enfant rebelle, un peu cancre, qui se moque totalement de ce qu'on peut penser de lui. Et donc, je grandis avec des parents et surtout un père qui va toujours nous comparer. Lui, il est beau. Toi, tu n'es pas gentil. Regarde ton frère, il travaille bien à l'école. Toi, tu n'es qu'un cancre, etc. Et malgré moi, je jouissais un petit peu de cette image et de cette comparaison qui venait aussi alimenter un peu ce besoin d'être à tout prix à l'image de ce qu'ils souhaitaient pour moi. Et surtout parce que j'étais tellement comparé. Alors du coup, je suis celui qu'on va toujours désigner pour, lire une lettre, faire un courrier et même accompagner mon papa à la banque, parce que faut quand même préciser que mes parents ne savent pas lire ni écrire. Ils arrivent du Maroc, ils sont nés dans les années 30, donc ils n'ont jamais fréquenté l'école. Et quand il fallait aller à la banque parce que mon père veut retirer de l'argent, donc à l'époque on allait au guichet, on remplissait un chèque, il savait pas le remplir et c'était moi qui réveillais le matin alors que je n'avais pas d'école. Et puis je lui disais, bon ça va, mais pourquoi toujours moi et pas Rogif? Et parce que lui c'est un bidon, il sait pas lire. Et il était persuadé qu'il ne savait ni lire ni écrire. Et donc Roger me regardait d'un œil malicieux en disant « Allez, vas-y !» Voilà. On est très copains depuis notre plus tendre enfance et jusqu'à l'adolescence et même jusqu'à l'âge adulte où nos chemins vont prendre des voies complètement différentes. Je vais, moi, poursuivre de longues études et lui, il va avoir la carrière qu'on sait. Et je me dis que lui a choisi sa voie alors que moi, j'ai construit une vie qui était plutôt à l'image de ce que mes parents souhaitaient. Et c'est légitime et je pense qu'ils l'ont fait par amour parce que n'ayant pas été à l'école, n'ayant jamais fréquenté les bancs de l'école, il souhaitait une vie meilleure pour celle de ses enfants et cette vie meilleure passait forcément par la réussite scolaire. Alors, je construis ma vie assez vite, trop vite même. Je fais des études supérieures et au lendemain de mes études, je commence à travailler. Je décroche un très beau poste. Je deviens directeur financier et puis 4 mois après, je me fiance et à 24 ans, je suis marié, père d'un enfant, propriétaire d'un appartement. Et puis, je crois avoir construit la vie que je m'étais construite dans la tête, en tout cas, à savoir un beau travail, un costume cravate, un beau bureau, des tableaux financiers, etc. Et puis, un appartement dans une belle résidence à Drancy, qui est forcément mieux que le bâtiment et la cité dans laquelle on vivait. Je me réjouissais d'avoir un appartement avec un ascenseur. Je disais, regardez, il y a même de la moquette et une glace pour se regarder. Tout est propre. Il y a des boîtes aux lettres qui ne sont même pas détériorées. Et je pense avoir abouti ou en tout cas accédé à la vie que j'avais peut-être rêvé ou en tout cas que j'avais cru savoir désirer. Je me pose des questions. Il y avait une petite voix en moi qui me disait, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que cette vie-là te correspond? Ne voulant pas assumer le fait que j'étais en train de construire la vie d'une autre personne, en tout cas celle qui ne me correspondait pas, je faisais taire cette petite voix en lui disant « tais-toi ». Je m'évertue pendant toutes ces années à me convaincre que oui, je suis un homme heureux, je vais rester marié pendant 24 ans, je vais avoir 3 enfants. Ça, c'est du pur bonheur. Je suis très heureux de mes enfants qui m'apportent vraiment cet équilibre et qui me donnent autant d'amour que je leur en donne. Et je suis très heureux de ça. J'ai quand même une vie où j'ai des amis, je sors, je voyage, je gagne bien ma vie, donc plutôt une vie confortable. Mais c'est une vie que j'ai construite autour d'une vitrine qui laisse croire à mon entourage, que ce soit mon entourage familial, ou mon entourage amical, que je suis un homme heureux, que je suis heureux dans mon couple, parce que tout est beau, tout est lumineux, tout est coloré. Et c'est vraiment cette image que je donne. C'est un espèce de masque que je porte en moi. Et quand je me retrouve, par exemple, dans des réunions familiales où il y a des grands dîners chez ma maman, je suis celui qui arrive avec son épouse, ses enfants, toujours bien habillé, tout est parfait. Mes enfants ont des petits emplois du temps de ministre. J'ai une belle voiture, je viens avec les plus belles fleurs, les meilleurs chocolats que j'ai trouvés dans tel magasin de Paris, alors que mes autres frères et sœurs arrivaient comme ils étaient. C'est-à-dire, voilà, on est entre nous, on n'a pas besoin de... Et puis, mon discours consistait à toujours alimenter cette vitrine. On a fait ci, on est allé voir tel spectacle, tiens, j'ai lu tel article dans Télérama. Et en fait, ma fratrie me regardait l'air de dire « Mustapha, mais sois toi-même, on s'en fout de tout ça, tu as pas besoin de faire ça avec nous ». Et pourtant, je l'ai alimenté comme ça pendant 24 ans. Et au final, c'est un mariage qui va voler en éclats, de façon violente, de façon brutale. Et je vais partir et on va se séparer. Et là, je vais traverser ma première épreuve de nuit noire de l'âme, qui va durer quelques temps. Et là, je vais parler autour de moi avec beaucoup de personnes. Finalement, est-ce que j'étais un homme heureux? Non. Je vous ai donné cette image, je vous ai laissé croire que tout allait bien, que j'adorais mon travail, que j'étais heureux avec mon épouse. Mais je crois pas que j'ai été un homme heureux parce que cette vie ne me correspondait pas. Donc là, la première remise en question, c'est celle-là. Arrêter de vouloir construire une vie en fonction du regard des autres, une vie très conventionnelle, voilà, en fonction des diktats de cette société, pour essayer de prouver que je suis quelqu'un de parfaitement équilibré. Je vais rencontrer, quelques années après, une autre femme où je vais croire enfin que ça y est, l'amour est là et je vais pouvoir à 50 ans construire maintenant quelque chose de véritable, quelque chose de solide, quelque chose de sincère. Et je crois enfin trouver du sens au mot amour, au mot couple. On va vivre une vie un peu particulière puisque elle vit à l'étranger et moi en France. Donc on va se voir à peu près tous les deux mois. Elle va se déplacer en France où je vais venir la voir au Maroc, mais avec la perspective de construire une vie qui va me projeter vers l'avenir. Et je crois être quelqu'un qui est profondément aimé. Je suis heureux parce que j'ai rencontré quelqu'un. Je suis heureux parce que je suis avec cette femme. Je suis heureux parce que elle va changer ma vie. Et en fait, je lui laisse un peu cette responsabilité en donnant évidemment 100% de moi, de mon temps, de mon énergie. Et tout a explosé le jour où j'ai commencé à m'affirmer en disant « faudrait peut-être qu'on passe à autre chose maintenant. Je vais venir au Maroc, mais là, je vais venir chez toi. » Et là, le couple a explosé. Enfin, elle a explosé et elle m'a annoncé qu'elle arrêtait cette relation, que je l'avais profondément déçue. Elle m'envoie un mail pour me dire que je l'avais profondément déçue, que son amour avait dégringolé. Et que voilà, ce qu'elle avait beau essayer et que c'était terminé, qu'elle ne pouvait plus. Et c'est après ce message que je vais avoir cet accident qui va bouleverser ma vie, une vie qui va complètement s'effondrer. On est en pleine période de confinement. À partir de mars 2020, on est tous obligés de faire du télétravail. On va s'enfermer chez soi et en tant que directeur financier, je travaillais pour un grand groupe spécialisé dans le monde de l'enseignement supérieur, mais un groupe mondial. Évidemment, en tant que directeur financier, l'impact du Covid fait que on va travailler deux fois plus parce qu'il y a bien sûr des impacts financiers sérieux. Et puis, il faut aussi continuer à gérer les cours, donc mettre en place tous les outils, etc. Bref, je travaille sans m'en rendre compte 12 à 13 heures par jour. Je commence tôt le matin, je finis tard le soir, mais je m'en rends pas compte parce que je suis chez moi. Et ça va durer pendant deux mois jusqu'au moment du déconfinement et une semaine avant de recevoir ce fameux mail où elle m'explique que tout est terminé, sans explication, sans même vouloir en parler par téléphone, donc elle m'efface littéralement de sa vie. Je vais faire ma première sortie, je suis invité à une soirée chez des amis d'une amie. Et puis je me dis, bon allez, c'est peut-être le moment, peut-être de se changer les idées, de sortir. C'est vrai qu'on ça faisait deux mois qu'on vivait de façon complètement isolée, enfermée. Et puis, je sens quand même une très très grosse fatigue, une lourde fatigue physique, psychique. Et puis je suis terrassé par cette séparation. Et durant cette soirée, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne vais ni abuser d'alcool, ni de rien d'autre. Et je vais me lever et je vais tomber à la verticale, derrière la tête. Une chute assez violente que des personnes ont décrite comme si j'avais été violemment projeté à terre. Et je vais tomber derrière la tête et je vais me retrouver avec une bosse énorme devant. Je ne sais pas comment je vais parvenir à rentrer chez moi, mais je vais arriver chez moi, je vais m'allonger sur le canapé et à partir de là, je vais partir. C'est-à-dire que je ne réponds plus de rien. Ma petite fille de 12 ans arrive, elle me parle, je ne lui réponds plus. Et là, elle est inquiète, il est 20h, 21h, 22h, je n'ai pas fait à manger, je marmonne un peu à peine des choses, enfin. Et puis elle voit surtout l'état de ma tête, hein. J'ai un front comme Elephant Man, hein. Il y a même une petite phrase, je me souviens qu'à ce moment-là, elle me dit « Papa, mais pourquoi tu as épilé tes sourcils ? Parce qu'on voyait plus mes sourcils. » Donc, elle s'inquiétait de plus en plus et tard le soir, elle appelle ma sœur qui vient. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. L'état de mon front l'inquiète aussi. Elle finit par m'emmener en réanimation et en fait, je partais. Je partais réellement. C'est-à-dire que le trauma crânien, c'est un processus très lent. Et quand ils m'ont ausculté, la première chose qu'ils ont dit à ma sœur, c'est « Heureusement, vous l'avez ramené parce que dans les 24 heures, il partait. C'était fini. » Mais je vais quand même partir dans le coma, un coma qui va durer 4-5 jours. Je vais me réveiller au bout de 5 jours dans un hôpital. Et là, je comprends plus. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas où je suis. Je ne sais pas ce que je fais dans cette blouse en coton, dans cette chambre avec une perfusion. Et là, je ressens de la peur. Je ressens de la peur parce que je suis incapable de remonter le fil de ces derniers jours puisque il y a eu un blackout total et j'ai extrêmement peur. Je sors de la chambre, j'arrive à marcher, je vais dans les couloirs. Il est peut-être 4-5 heures du matin. Et là, j'interpelle une femme qui est peut-être infirmière ou aide-soignante, je ne sais pas. Et je vais lui parler très, très, très violemment. Ce qui n'est pas dans ma nature, évidemment. En lui disant, qu'est-ce que je fous là? Ramenez-moi chez moi, je veux partir, n'importe quoi. Oh. Et donc, elle me ramène comme un demeuré dans ma chambre en disant, calmez-vous, votre famille viendra demain. Bon, on est dans une période, c'est la pandémie, les hôpitaux sont pleins à craquer. Ils sont dépassés. Donc, je dirais que le cas d'un type qui a un trauma crânien, il est un peu mis de côté. Il est un peu délaissé. On comprend pas trop. Et puis, finalement, le lendemain, ma famille arrive et m'amène à la maison. Et ils me laissent sortir comme ça. Et là, j'arrive chez moi et je trouve du monde. Je vois beaucoup de monde. Il y a mes frères, il y a ma sœur, il y a mes grands-enfants, il y a mes neveux, mes nièces, etc. Et tout le monde est affairé, chacun fait une chose, range, prépare à manger, fait des courses, etc. Enfin, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un frère qui est métamorphosé, qui va devenir irascible, féroce, colérique. Le gentil frangin, le gentil papa, qui est tout doux, qui est affable, qui est un peu effacé, qui a tendance à ne pas dire ce qu'il pense, qui a toujours tendance à arrondir les angles, etc., devient un monstre. Et là, je vais les envoyer balader, mais violemment. En fait, c'est les conséquences du syndrome frontal. Les lésions frontales font qu'on n'a plus de filtre. Et on va dire ces quatre vérités. Le filtre, c'est ce qui nous permet à un moment donné de dire à quelqu'un « Est-ce que tu peux parler un peu moins fort ?» et non pas lui dire « Ferme ta gueule ». C'est un peu ça. Sauf que quand on n'a plus ce filtre, on dit « Ferme ta gueule, tu parles trop fort ». C'est violent, c'est un côté un peu désabusé, violent, agressif. Mais il n'y a qu'une personne, mon frère Rojdi, qui fasse se rendre compte qu'il y a des vérités. Des vérités tues, des vérités enfouies au fond de moi. Alors que tout le reste de la famille met ça sur le compte de la chute, du trauma. Il ne sait plus ce qu'il fait, il ne sait plus ce qu'il dit. Va dormir, repose-toi, tu as besoin de dormir, etc. Lui se rend compte que c'est le petit Mustapha qui parle. C'est le petit frère qui en a marre, qui ne veut plus être l'enfant parfait, qui ne veut plus être le papa idéal, qui ne veut plus être le fils exemplaire, qui ne veut plus être le parfait collègue, le gentil mari, etc. Et ces vérités vont beaucoup déranger parce que je vais tous les envoyer balader un par un. Avec violence, avec des mots durs, mais qui reste néanmoins des vérités. Ma fille, qui étudie au Canada, dont je suis très très proche, puisqu'elle avait décidé de venir vivre avec moi quand je me suis séparé de sa maman, donc on a un lien très 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 proche. Elle est partie ensuite étudier au Canada, où elle fait des études de communication marketing. Elle avait décidé de revenir en France pour la période de confinement. Et là, je vais lui crier dessus en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fous au Canada? Pourquoi tu fais des études de com au Canada? Il n'y avait pas assez d'école ici. Puis c'est quoi la com? C'est de la merde, c'est du n'importe quoi, etc. » Et c'est très, 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 très violent parce que, comme me disait, répétait souvent Rojdi, il me dit « Tu dis des choses que tu penses, mais tu les dis d'une façon que personne n'a l'habitude d'entendre. » J'ai un fils qui est un peu plus âgé que sa grande sœur et qui est un fan de jeux vidéo. Et lui, il est venu chez moi pour veiller sur son papa. En fait, il vient, il s'installe chez moi, sauf qu'il arrive avec sa PlayStation, etc. Et il passe ses journées. Je vais lui crier dessus. Je vais lui faire savoir que j'en ai marre de le voir à 28 ans en train de jouer à des jeux débiles. Je vais l'envoyer balader. Je vais lui jeter ses jeux en pleine tête, etc. Donc lui va s'enfuir. Ma fille va s'enfuir. Et en fait, je vais m'engueuler avec mon frère aîné, qui est celui qui nous encadrait sur le plan scolaire. Je vais m'engueuler avec lui, je ne sais plus pour quelle raison, et je vais le traiter de connard. Ce qui est quelque chose d'inimaginable. D'abord parce qu'on se respecte et qu'on s'aime, et qu'on ne s'est jamais insulté, même dans la plus tendre enfance. En tout cas, pas de cette manière, et je vais le traiter de connard. Comme si j'avais cette chose enfouie en moi, parce que tu nous en as bien fait baver. Mais j'ai toujours pensé, après coup, quand j'ai terminé mes études, et puis, quand on grandit dans une cité, dans le 93, on a besoin d'avoir comme ça ces garde-fous. Et c'était nos deux grands frères, et je les remercie, je les remercierai jamais assez, parce que c'est grâce à eux qu'on n'a pas viré dans la délinquance. On ne pouvait que les remercier d'avoir été aussi autoritaire, aussi vigilant, et pourtant, je vais l'insulter. Il y a parfois des vérités qui ont un sens, qui sont des choses enfouies, latentes, que je vais balancer comme ça. Et puis, il y a des choses que je vais balancer qui n'ont aucun sens. Ma nièce, que j'adore et que j'aime et qui m'aime et pour qui j'ai une profonde admiration, qui est talentueuse et qui fait des vidéos qui ont beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi je vais lui dire « De toute façon, t'es moche, t'es pas drôle et tes vidéos me font pas rire ». Et ça, je ne l'ai jamais pensé. Et je ne le pense pas ni avant, ni pendant, ni après. Je ne ressens pas d'émotion. En fait, j'ai l'impression d'être complètement dénué d'émotion, de sentiment. Rien ne me procure joie ou bien-être ou quoi qu'est-ce. Je n'arrive pas à écouter de la musique. Je n'arrive pas à me distraire à travers la lecture. Même quand je regarde la télé, ça dure 10 minutes à peine. J'ai rien envie de faire. Je n'ai pas envie de sortir. Je tourne en rond dans ma maison comme un lion en cage. Je vis dans un monde qui m'a complètement ostracisé parce que je suis devenu infréquentable. Donc, je suis complètement isolé. Et je crois que la seule émotion que je ressens est la tristesse. Mais une tristesse qui est décuplée par les effets du traumatisme crânien. Je regrette par moments d'être revenu sur Terre parce que j'estimais que durant ces 5 jours, je m'imaginais être parti dans l'au-delà. Et puis, j'ai frappé à la porte de l'univers et on m'a dit « Non, non, c'est pas ton heure, retourne. C'est pas pour toi, c'est pas pour maintenant. » Et je me souviens que j'en voulais énormément à la vie parce que je perds tout. Une épouse qui m'efface complètement de sa vie, mais de manière, je trouve, lâche et violente. D'autant que je viens d'avoir un accident grave. Elle ne prend pas de nouvelles de ma part. Là, je trouve que c'est un monde injuste. Je suis viré de mon travail, un travail pour lequel je me suis profondément investi, où je travaillais sans relâche, avec une surcharge de travail. J'ai toujours été hyper engagé, très investi, et on me lâche juste parce que je suis tombé sur la tête. Ils décident de me licencier parce que ils ont appris que j'étais tombé sur la tête et que j'avais eu un trauma grave. La DRH du groupe a dû taper sur Google « traumatisme crânien ». Elle a dû découvrir que les conséquences sur le plan cognitif ne se remettaient pas avant 2 ans et demi, 3 ans. Donc, ils ont estimé tout simplement qu'ils n'avaient plus rien à faire de moi et qu'ils m'ont licencié de façon abusive et lâche. Et là, je trouve que la vie est injuste. Je suis seul et j'en veux à la vie. Et je me mets à la fenêtre, je regarde le ciel et je dis « Mais pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas gardé ?» Avec vous, là-haut. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi vous m'avez renvoyé sur Terre si c'est pour vivre une vie de merde comme je suis en train de vivre? Et je suis toujours autant agressif avec mon entourage familial qui essaye de m'aider, qui essaye de me tendre la main. Ils en prennent plein la tête. Et pourtant, pour ceux qui sont encore autorisés à venir me voir, parce que les autres, je les ai tellement envoyés balader qu'ils n'osent plus. Et donc, on envoie un frère et puis un autre pour essayer de voir ce dont j'ai besoin. Et la question qu'on me posait à chaque fois, c'est « De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et là, je répondais toujours avec véhémence « Mais qu'est-ce que tu veux faire pour moi ? Je viens de me faire jeter comme une merde par une épouse, je viens de me faire jeter comme une merde par un travail, j'ai plus rien. » Je me rends compte à ce moment-là que je suis dénué de sentiments, que je n'arrive pas à ressentir des émotions. Et en fait, je perds tout simplement l'envie. L'envie de, je sais pas, sortir, aller promener, l'envie d'écouter de la musique, l'envie de prendre un livre. Et d'ailleurs, je ne peux même pas lire 3 lignes sans avoir à les relire 10 fois. L'envie de regarder un film, l'envie de faire quelque chose. Et là, je deviens un lion en cage. Je vais de ma chambre au salon, du salon dans le couloir, dans le couloir dans la salle de bain, et je tourne en rond. Là, je commence à avoir peur. Et la seule émotion que je ressens, et qui est certainement décuplée par l'effet du traumatisme crânien, de la commotion cérébrale, c'est la tristesse. Je me sens profondément triste. Et je regrette une chose, c'est que je n'arrive pas à pleurer. C'est dire à quel point j'ai plus aucune perception. J'aimerais pleurer. J'aimerais crier, j'aimerais m'effondrer, mais non, je suis assis dans mon lit, sur le canapé, et cette situation me fait peur parce que j'ai toujours été quelqu'un de nature joyeuse, très entreprenant, j'aime faire des choses, je suis toujours en train de bouger, je suis en train de faire mille et une choses chaque jour. Et là, je ne fais plus rien, et cette situation me fait peur. Et parfois, je me mets à la fenêtre, je lève les yeux au ciel, et puis, je lance un appel à l'univers, un reproche, parce que je trouve que la vie est injuste d'avoir mis à terre comme ça tout ce que j'avais construit de mes propres mains, brique par brique, depuis des années et des années, de voir comme ça tout s'effondrer. Je leur dis « Qu'est-ce que je vous ai fait ? C'est injuste. Pourquoi vous me faites ça ? » D'autant qu'il y a aussi d'autres symptômes très symboliques, c'est que je me rends compte que je vois trouble, ma vue a baissé. Et puis, symboliquement quand même, j'avais perdu le goût et l'odorat. En ce qui concerne le goût, ça veut dire que je ne pourrais plus apprécier les aliments. Moi qui suis un fin cuisinier et qui adorais cuisiner, je me disais, c'est terminé, tu ne pourras plus, ou alors tu le feras pour les autres, mais tu ne pourras plus apprécier ça. L'odorat, c'est du zéro. Je peux aller dans une parfumerie, je ne sens plus rien. Il y avait quand même un signe symbolique, c'est-à-dire je ne peux plus respirer les parfums sur cette terre. Je ne pourrais plus me balader dans la campagne et respirer le parfum des roses, du jasmin ou de la terre mouillée, par exemple. Ça me rendait triste. Et donc, je refusais les mains qu'on me tendait parce que je savais pertinemment qu'on ne pouvait rien faire pour moi. Je suis convaincu que la solution est entre mes mains. J'ai peur à ce moment-là que beaucoup de choses vont changer dans ma vie. J'ai peur de ne plus pouvoir lire un livre. J'ai peur de ne plus pouvoir m'intéresser à des choses. J'ai peur de ne plus pouvoir avoir une activité intellectuelle. J'ai peur d'être celui qui va oublier la moitié des choses en allant faire des courses, en se promenant dans les rues, sans pouvoir retrouver son chemin. J'ai peur de garder cette tristesse et j'ai surtout peur de ne plus retrouver l'envie. Et là, je suis très inquiet parce que je souffre de ce qu'on appelle un handicap invisible. Ça ne se voit plus à partir du moment où je n'ai plus cette bosse, mais même aux yeux des miens et surtout de mes enfants souffrent, je ne le sais pas, je ne le vois pas, mais ils souffrent à l'idée de ne plus retrouver leur père. C'est en fait comme une petite mort. Est-ce que je vais ressusciter ? Ça, c'est la question que je me pose et qui vient donc ajouter de la peur, de la tristesse, comme je le disais. Mais c'est aussi ce qui va beaucoup angoisser mes enfants. Ce père drôle, gentil, affectueux, tellement présent, avec qui ils ont une profonde complicité, une relation teintée d'un amour inconditionnel. Aujourd'hui, notre père est devenu un monstre, est devenu méconnaissable. Il nous fait peur. Mais le pire, c'est que je vais rester accroché à cette relation avec cette femme qui m'a quitté. Je vais être dans un déni total. Je vais refuser de faire le deuil. Je vais refuser de passer à autre chose. Pendant 2 ans, je vais alimenter l'espoir factice, évidemment, qu'elle va revenir sur cette décision, que tout ça n'est qu'un mauvais nuage. Et puis, je l'alimente chaque jour. Je lui écris ou j'écris dans un cahier. Parce que je ne veux pas être celui qui va la harceler en lui envoyant des mots tous les jours, mais sur 10-15 lettres que je lui écris, je vais peut-être lui en envoyer une. De son côté, c'est le silence radio, elle ne me répond plus. Et je n'arrive pas à comprendre. Et ça me met dans une colère, dans une détresse et dans une tristesse parce que je trouve ça injuste. Et je vais alimenter ça. Gare à ceux qui s'autorisaient à me dire « il faut passer à autre chose, il faut faire le deuil », je sortais les crocs. Le mot « deuil », non, il n'en est pas question. Non, elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir, et je vais nourrir ça, et je crois que c'est ce qui va aussi pendant très longtemps me maintenir dans cette détresse. La conscience de passer à côté de la mort, je crois que je réalise ça un peu plus tard, c'est-à-dire au moment où je vais ressentir l'envie de sortir de ce puits sans fond, parce que je suis dans les ténèbres. Et là, je me dis, il t'est arrivé quelque chose que tu n'as pas choisi et que tu ne peux pas changer. Et à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce que j'en fais ? Quand il m'arrive une tuile, est-ce que je réagis en subissant les choses ? Est-ce que je reste dans la négativité ? Est-ce que j'alimente cette souffrance qui d'ailleurs va être 2 fois plus importante quand on est dans le refus et la colère ? Ou alors, est-ce que je vais essayer d'en tirer des leçons ? D'en faire quelque chose, en tout cas, une forme de résignation et d'acceptation. Et c'est là que je me dis, il y a 2 choix possibles. Dans l'état où je suis, si je vais voir mon médecin généraliste et que je lui explique ma situation, ma chute, ma séparation, mon licenciement, mon isolement, etc., il va me prescrire et des anxiolytiques et des antidépresseurs et des cachets pour dormir. Donc, je vais être sous ma couette, complètement shooté. Et puis, ça va rassurer tout le monde. Soit je me dis, il faut peut-être essayer de commencer à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi il t'est arrivé cette chose abominable ? Et puis finalement, si c'était pas une chose abominable, s'il fallait à un moment donné faire confiance à l'intelligence universelle et de se dire ben, pourquoi tout ça, ça m'est arrivé. Il y a forcément un sens, il y a forcément une raison. Et c'est là que j'ai commencé à cheminer. Et c'est parce que j'étais mal dans ma peau, que j'étais très malheureux affectivement, que j'ai décidé à un moment donné de faire mon auto-analyse, de rentrer dans l'introspection et de retourner à mon origine. Alors, c'est pas un chemin de rose sans épines, évidemment, mais je crois que je commençais à comprendre que la souffrance était un corollaire inévitable pour celui qui chemine. Que si je n'étais pas descendu dans les ténèbres, si je n'avais pas fait l'épreuve de la séparation, de la chute, de l'aveuglement, du vécu des ténèbres, je n'aurais jamais pensé à un moment donné à aller jusqu'à dérouler le fil de ma vie et d'être dans une forme d'introspection. Quand on commence à réfléchir dans ce sens et qu'on commence à se dire « ben non, la vie n'est pas injuste », il y a certainement un sens, des leçons à comprendre de tout ça. Je pense que déjà, on se met sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'on n'est plus là en train d'alimenter la souffrance, la tristesse, la colère. On se dit « il y a quelque chose et je vais essayer de comprendre ça ». Par contre, je pense que même si je fais appel à toutes mes ressources, je ne serai pas capable de pouvoir y arriver seul. J'ai besoin d'avoir des personnes qui m'aident. Et en fait, au lieu de suivre la médecine conventionnelle, prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs, je vais choisir la voie de la spiritualité. Alors, je me disais à qui je peux m'adresser, appelons ça comme on veut, l'univers, le ciel, les archanges, mais il y a aussi peut-être mes défunts, mes parents, mes grands-parents. Et puis, à mesure que j'avance, je vais rencontrer des personnes. Les personnes vont se mettre sur mon chemin. Sans que j'aille chercher sur Internet ou des coordonnées que des amis vont me donner, les personnes vont venir à moi. Je vais rencontrer d'abord une femme qui s'appelle Magali, qui fait des lectures d'âme. Et je vais apprendre beaucoup de choses à travers ça. Elle me fait des lectures d'âme et là, je plonge dans mon histoire. Je plonge dans les compréhensions. Je vais rencontrer une dame qui s'appelle Swan, qui elle va beaucoup m'aider à guérir de cette dépendance affective. Et puis, un autre maître chaman, je vais assister à des séminaires de retraite spirituelle. Et là, je rentre dans cette sphère. Alors, ça inquiète beaucoup autour de moi. Et c'est ça qui est surprenant. C'est que je n'ai pas un chemin de guérison classique, conventionnel. Je fais beaucoup de méditation. Je me suis acheté une statuette de l'archange Raphaël. Je l'ai aussi en tableau. J'allume des bougies et je fais mes prières, etc. Mais finalement, je leur dis, mais vous savez, vous pourriez venir me voir et vous me trouveriez allongé sur le canapé ou dans mon lit, complètement shooté par les médicaments, et vous trouveriez ça normal en disant « c'est super, c'est bien, tu te guéris ». Et je vous dirais « je vois une psy deux fois par semaine, ben écoute, c'est super, etc. et tout ». Tout le monde trouverait ça normal. Mais à partir du moment où je suis sur ce cheminement spirituel qui m'élève et qui me libère, qui me donne ce sentiment d'épanouissement, qui me donne aussi ce sentiment d'arriver à aligner chaque corps de conscience, je leur dis, dès lors que ça me fait du bien, je dis, je suis pas dans des sectes, je deviens pas fou. Mais c'est ce chemin-là qui va m'aider à traverser cette nuit noire de l'âme et à prendre conscience aussi que, effectivement, je suis passé par la mort et que j'en suis revenu. Et quand on revient de ça, on se dit, stop, on arrête tout. Changement, changement, changement. En fait, ce choix que je fais, je me rends compte d'une chose qui est très intéressante, c'est qu'il déplaît. Et c'est comme si la vie m'envoyait une épreuve en disant « ben voilà, tu fais quelque chose qui te fait énormément du bien, mais qui déplaît autour de toi, qui inquiète même. Qu'est-ce que tu en fais ?» Et là, à travers cette épreuve, je me dis « ben non, je vais l'assumer, même si ça déplaît, même si vous trouvez ça complètement débile, moi ça me fait du bien. » Et à partir du moment où ça me fait du bien, je chemine vers l'épanouissement, je chemine vers la guérison, et ça, c'est moi qui le sais. Et peu importe que ça vous plaise ou pas. Cette méditation m'apportait du bien, m'amenait à être la meilleure version de moi-même. Ça ne me changeait pas, ou en tout cas si ça changeait des choses en moi, ça me nettoyait de mes dysfonctionnements ou de la part un peu sombre ou toxique qu'il pouvait y avoir, même si elle était infime, au moins en tout cas j'allais vers l'amélioration. Je me sens nettement mieux. Je sens que je chemine, je me mets à sortir. Et puis surtout, il y a cette phrase de Prévert que j'aimais beaucoup qui disait « j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. » Et donc, je vais à la quête de ce bonheur. Et puis, je le retrouve à travers une promenade dans un jardin. Puis, je vais au bois de Vincennes, à travers les arbres, à travers le chant des oiseaux, à travers la nature. Je me sens pleinement heureux. Je suis dans cette espèce de plénitude. Et je me dis, c'est simple, en fait. C'est simple, le bonheur. Quand j'ai commencé à reprendre le sport et que je me mettais à courir et à faire des exercices en plein air, à chaque fois que je terminais, je regardais le ciel et je disais merci, merci de m'avoir donné ce courage de me lever, ce courage d'aller jusqu'ici et cette force de pouvoir courir, faire des pompes, des tractions, de la corde à sauter, etc. Merci. Et rien que ça, ça vous permet de conscientiser le bonheur que vous vivez. C'est aussi simple que ça. En fait, je commençais à donner un sens à cet accident, à cette chute, à cette séparation. Et même ce travail qui m'a complètement jeté à la rue, il y a un sens qu'il fallait comprendre. Je disais au début, dès que je me suis mis à travailler, il y avait cette petite phrase en moi qui me disait « T'es pas fait pour ça, mais t'es pas fait pour travailler derrière un bureau, à faire des bilans, des budgets financiers, des business plans. Enfin, ça se voit que ça ne t'intéresse pas. » Et finalement, la vie m'a dit « Arrête ce travail, il est pas fait pour toi. Regarde, tu peux donner tout ce que tu veux, tu peux te sacrifier, tu peux y laisser ta santé. Un jour, on te fout à la porte, on te jette comme un chien abandonné. » Et quant à cette séparation, ce remariage, évidemment que je pouvais toujours m'amuser à la critiquer, à la juger, à lui infliger toutes les responsabilités. C'est quand on arrive à un moment donné à se dire « Quelle est ta part de responsabilité dans cette séparation ?» Tu dois essayer de comprendre à travers toi ce qui n'a pas fonctionné. J'ai cheminé de manière à d'abord être le plus fidèle à celui que je suis, d'être moins obsédé par le regard ou par la pensée des autres, d'être plus du tout touché par l'idée de plaire ou de déplaire. Aujourd'hui, je m'en moque totalement. Et finalement, la vie a fait en sorte que des personnes qui n'avaient plus de sens ou de raison d'être dans ma vie d'aujourd'hui sont parties d'elles-mêmes, ou en tout cas, je m'en suis écarté sans colère, sans conflit, sans dispute, sans quoi que ce soit. Il y a eu comme une espèce de filtre, ça s'est complètement épuré, et je suis entouré aujourd'hui uniquement de personnes qui me conviennent, avec qui il y a une harmonie, avec qui je suis complètement aligné. Parce que, en fait, quand on m'apprécie aujourd'hui, et si on m'aime, et si on m'apprécie, on m'aime pour celui que je suis aujourd'hui, sans qu'il ait besoin de faire du tralala pour plaire ou de montrer une image ou en tout cas d'aller dans le sens des autres et peut-être aussi d'en faire des tonnes pour séduire et pour convenir à ce que l'autre attend de nous. Donc je n'ai plus peur de déplaire, je n'ai plus peur de perdre, je n'ai plus peur de décevoir. C'est ce qui m'a conduit en tout cas à être beaucoup plus aligné à celui que je suis. Et par ailleurs, d'être aussi à l'écoute de mon cœur, à l'écoute de mes émotions, de les accepter, de les laisser diffuser, et puis d'être capable de dire aujourd'hui, il faut que tu fasses des choses qui ont vraiment un sens dans ta vie. J'ai quitté mon travail de directeur financier. Alors, parallèlement à ce chemin de guérison, je continue de voir mon neurologue et il continue son traitement. Et puis, il fait ses tests et il se rend compte de consultation en consultation, de semaine en semaine, que je vais de mieux en mieux. Et je me souviens qu'au bout de 6 mois, je viens le voir à son cabinet et j'ai un gros bouquin entre les mains. C'est le premier bouquin que je relisais depuis des mois, des mois, des mois. Et là, il me dit « Attends, tu es en train de lire ça ?» Je lui dis « Ouais, mais tu l'as commencé ?» Je fais « Non, j'en suis à la moitié. » Il me fait « Attends, donc tu lis ?» Et là, il se prend la tête entre les mains en disant « Mais je ne comprends pas. » Et au terme de la dernière consultation, on avait bien sûr tissé un vrai lien d'amitié. Il me dit, tu sais, j'ai discuté avec mes confrères, je leur ai montré ton dossier, ils ont vu l'état des IRM, l'état de ton lobe frontal, des lésions. Et quand je leur ai expliqué là où tu en étais aujourd'hui, ils n'en revenaient pas. Ils ne me croyaient pas. On en a conclu que tu étais un vrai miraculé parce que tu as guéri au bout de 6-9 mois, là où d'autres vont mettre 2-3 ans. Et aujourd'hui, tu as un discours cohérent, tu lis et tu as même commencé à écrire. Je n'ai pas d'explication. Il y a eu ce livre que j'ai écrit. Alors, c'est assez curieux parce que durant les derniers mois de cette convalescence, de ces 2 ans, donc j'ai passé beaucoup de temps à écrire. J'ai donc décidé de raconter mon histoire en étant bien sûr à la fois dans l'autodérision, dans l'introspection. Et puis, je me rendais compte en déroulant le fil de mon histoire, là où les fils s'enchevêtraient en fait. Là où commençait à y avoir des choses qui n'allaient pas, qui ont créé certainement des blocages ou qui m'ont peut-être poussé à faire des mauvais choix. J'ai écrit sans trame préconstruite, sans plan. J'ai vraiment raconté l'histoire de mes parents, leur arrivée en France, cette famille, ma place dans cette famille, cet enfant doux et obéissant que j'étais, ma vie dans cette cité, l'école, Et puis, je raconte comment ce jeune enfant devenu adulte va se rendre compte un jour, c'est pas qu'il n'a pas eu la vie qu'il désirait, mais qu'il n'a pas su désirer la vie. Et qui finalement, il a construit la vie de quelqu'un d'autre et qui va en fait commencer vraiment à se poser les bonnes questions, à savoir pourquoi aujourd'hui il baigne dans la désillusion et les regrets. Ça a été un véritable exutoire. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Cet accident, même si elle m'a beaucoup séparé de mes proches, de ma famille, de mes amis, elle a eu aussi cet effet assez curieux de nous rapprocher, Rojdi et moi. Alors, c'est pas un rapprochement de deux personnes qui ne se connaissaient pas, c'est le rapprochement de deux personnes qui se retrouvent après peut-être une ou deux décennies, non pas de séparation, parce qu'on a toujours continué à se voir, mais on se voyait dans des contextes familiaux, donc avec du monde, etc. Mais là, je vais retrouver mon frangin, mon frérot, mon pote, et c'est le seul qui d'ailleurs va rester. Et lui va être tellement touché par cette histoire, et il y a de quoi, en tout cas une histoire qui inspire à la fois l'acteur, mais surtout le réalisateur qu'il est, il décide d'écrire un scénario et d'en faire un film, qui s'appelle Les Miens, et qu'il a écrit pendant cette période de convalescence, où j'étais encore très fragile, très affecté par ce traumatisme. Je suis pas trop d'accord, mais je ne peux pas lui dire, je vois pas ça d'un bon œil, parce que j'ai du mal à concevoir que mon histoire puisse être portée à l'écran et servie au grand public. Et puis d'ailleurs, je ne l'ai même pas encore réglée, cette histoire. J'en suis encore en plein dedans. Mais j'ai tellement de respect pour Rojdi, pour son travail, et puis pour l'art et la création, et surtout la liberté d'exercer son art et cette création, que je n'ose pas lui dire « ça ne me plaît pas ». Il va quand même l'écrire, et puis il va le tourner, et puis le temps de le monter, et puis le temps de le diffuser un jour, je vais finir mon travail de guérison. Je vais sortir de ce tunnel. Je vais enfin être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus en éveil. Je regarde ce film et de la première à la dernière image, je pleure. Mais dès la première image, je me suis mis à pleurer. Et en fait, à la fin du film, lorsque le film se termine, au moment du générique, le public reste assis, scotché. Et je vois des gens que je ne connais pas qui pleurent. Et je vois des gens que je connais, mes frères, ma sœur, mes enfants, mes amis, qui pleurent. Et moi, j'ai les larmes aux yeux. Je me suis dédoublé de cette histoire en devenant le spectateur de mon histoire. Ce film que je voyais d'un mauvais œil au départ, finalement, a été une véritable thérapie. J'ai pleuré parce que j'ai eu beaucoup de peine et j'ai eu mal pour ce Mustapha-là que je vois à l'écran, qui est par ailleurs formidablement interprété, mais c'est celui-là que j'avais envie de prendre dans mes bras. Parce que celui que je suis aujourd'hui va très bien. Je suis tellement heureux et j'ai tellement de peine. J'ai cette compassion. On est sortis, donc je refusais qu'on me regarde avec beaucoup de peine, avec beaucoup de tristesse. Je leur disais juste, j'ai de la peine, c'est dur ce qu'il a vécu. Et après, Rojdi me cherchait partout, parce qu'il y avait un cocktail, il y avait du monde, etc. Et quand il m'a vu, il est arrivé, puis il me regarde, l'air de dire « alors ?» Et là, je le prends dans mes bras, je lui dis « merci ». Tout simplement, merci. J'ai pas d'autres mots, j'ai pas de discours, j'ai pas envie de faire une analyse, je lui ai simplement dit « merci » parce que j'ai pleuré pour ce Mustapha-là. En fait, j'ai réussi à comprendre que la vie ne fait jamais les choses comme ça sans raison. Alors, guérir de ses blessures, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, ça veut dire simplement qu'elle ne nous contrôle plus. Et moi, j'avais besoin de guérir de pas mal de blessures. Donc, la vie m'a servi sur un plateau. Allez, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, tout y était, vraiment. Et c'était à moi de comprendre. Et après, on est beaucoup plus en paix avec soi-même. Et je pense que j'ai été aussi à la recherche de cette enquête de paix intérieure. Et aujourd'hui, je vis d'abord maintenant de l'écriture. Donc, vous voyez, toute expérience, aussi difficile, aussi douloureuse soit-elle, elle vaut la peine d'être vécue. Tout dépend de ce qu'on en fait. Et ça, c'est la liberté de chacun. Et moi, j'ai essayé de faire quelque chose de cette histoire, de ce que je considérais comme un drame. Aujourd'hui, je me dis juste, la vie a simplement décidé qu'il était temps d'appuyer sur le bouton pause parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. On va tout ratisser et on va tout recommencer en reconsidérant tout. Et parfois, la vie peut le faire de manière violente. Moi, ça a été assez violent. une chute, un trauma, un coma, bien sûr que c'est violent tout ça. Mais peut-être qu'il faut passer aussi par là pour mieux comprendre et en tirer des leçons. C'est ce que moi j'ai appris de la vie. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire merci, merci à la vie, même si j'ai vécu des choses douloureuses, des choses difficiles, même si je suis passé par cette nuit noire de l'âme, je ne serais jamais celui que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par tout cela. Je considère cet accident et tout ce qui a suivi comme un cadeau. Alors, si c'était à revivre, je préférais le revivre autrement, hein, de façon un peu plus light quand même, évidemment, mais je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. La vie m'a permis aujourd'hui de vivre quelque chose qui donne beaucoup plus de sens à ce que je fais. J'ai la chance aujourd'hui de travailler avec différentes associations et d'intervenir dans des écoles, dans des collèges pour faire des ateliers d'écriture, mais également avec l'association Lire pour en sortir où je fais des interventions dans des prisons, où je fais des ateliers de lecture avec des détenus. Alors quand je rentre dans un centre de détention et que je rencontre 15 détenus et qu'ils se retrouvent tous avec mon livre entre les mains, un livre qu'ils ont lu et qu'on va parler pendant 2-3 heures, je ressors de là avec les larmes aux yeux et ils osent dire « Monsieur, j'ai pleuré en lisant votre livre ». À chaque fois que je ressors de toutes ces rencontres que je fais aujourd'hui, que ce soit à travers des colloques sur le traumatisme crânien, quand je fais une journée complète au CHU de Nantes pour rencontrer des malades atteints du traumatisme crânien, j'ai l'impression aujourd'hui que ce que je fais sert à quelque chose, m'épanouit, m'enrichit et donne du sens. Il a fallu que j'attende d'avoir 55 ans pour enfin comprendre aujourd'hui. J'ai retrouvé l'amour et j'ai retrouvé des vrais liens avec ma famille qui sont, je dirais, beaucoup plus sains parce que j'ai réussi à comprendre qu'il fallait que je mette de l'équilibre dans mes relations. Je ne sais plus quel texte de Brassens où il dit « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. J'apprends à vivre aujourd'hui, il est jamais trop tard. »
Merci à Hélène Petiot qui a réalisé cet épisode et merci à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous avez aimé Les Rescapés, aidez-nous, parlez de nous autour de vous, mettez-nous des commentaires, sympa tant qu'à faire, et des étoiles, merci beaucoup.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.